Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Louis Mapou, ancien président du gouvernement qui conduit la liste Unie pour le pays en province sud pour les provinciales du 28 juin. Louis Mapou, bonjour.
Bonjour Elisabeth Noir, bonjour aux auditeurs.
Merci d'accepter notre invitation quelques jours après le lancement de votre campagne et la présentation de votre liste. Mais d'abord une question que les Calédoniens se posent, je crois. Vous avez été président du gouvernement de juillet 2021 à janvier 2025. Et depuis la chute de votre gouvernement, on ne vous a pratiquement plus entendu. Alors pourquoi silence et pourquoi est-ce que vous revenez aujourd'hui sur le devant de la scène ?
Oh, c'était un silence qui était nécessaire selon ce qu'on a exercé à ce niveau-là, et notamment à un niveau pays où on a besoin de se poser un certain nombre de questions sur la manière dont on a géré les choses. C'est ce que j'ai fait pendant cette année, mais on est resté au contact du travail qui se faisait, des négociations notamment.
Et là, vous avez envie de participer à nouveau
Oui, c'est une demande qui a été faite par l'ensemble des responsables politiques du mouvement en province sud. C'est que, compte tenu des enjeux qu'il y a dans le cadre de cette élection, et en tout cas de cette période, il était peut-être important que quelqu'un qui a mon profil puisse conduire cette bataille, oui.
Alors, une liste unie en province sud, ce n'était pas arrivé depuis 2014 ?
C'est pas arrivé depuis 2014. L'Uni en province sud avait conduit une liste en 1995, lorsque cette initiative a été prise, notamment sous la pression de Paul Néaoutin. Ça a été le cas encore en 2004. Élection qui n'a pas donné d'élu en province sud. Et depuis 2014, on est revenu à un format FLNKS.
Et alors là, donc vous faites votre liste face à la liste FLNKS qui a été présentée l'autre jour. Ça veut dire que la rupture est définitive entre l'UNI, le PALIKA et le nouveau FLNKS ?
Non, il n'y a pas de rupture. Je voulais rappeler simplement que nous avons décidé de quitter le FLNKS définitivement que depuis quelques mois. Je voudrais rappeler aussi que l'ensemble des événements qui se sont passés durant l'année 2024 l'ont été sous l'animation par le Parti de Libération Kanak du bureau politique. Et il n'y a pas de rupture, il y a simplement une approche, comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, différente, qui repose sur une analyse différente de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et des voies et moyens qu'il faut mettre en œuvre pour poursuivre la construction du pays pour son accès à la pleine souveraineté.
Mais vous avez quand même essayé de faire une liste commune avec eux, de discuter avec eux ?
Il y a eu des discussions avec les anciens du FLNKS. Les responsables actuels nous ont indiqué, nous ont pris contact, tout simplement pour voir dans quelle mesure c'était possible, mais les difficultés ou le travail qui était fait au sein du FLNKS avait déjà laissé entrevoir qu'il y avait très peu de marge de manœuvre pour qu'on puisse être ensemble.
Et donc, vous y allez tout seul. Un élément, quand même, vous y faisiez allusion dans votre réponse, mais 2 ans après, quel regard vous portez sur le 13 mai, qui a quand même été un moment de violence terrible qui aura marqué la Calédonie, qui va sûrement être très présent en bruit de fond dans ces provinciales. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui est responsable ? Comment on a pu en arriver là ?
Alors, avant d'arriver à ceux qui pourraient être relevés des responsabilités des uns et des autres, je voulais simplement insister quand même sur le moment que nous vivons. Nous étions dans une mandature de crise, une crise successive, je n'ai pas besoin de revenir dessus, mais surtout, ça relève un moment dans l'histoire de notre pays qui ressemble à une forme de basculement historique. La crise que nous avons vécue avec les événements de 2024, la crise sanitaire, toutes ces crises viennent traduire à mon sens, une forme d'impasse dans laquelle nous étions rendus, une impasse politique, comme vous le savez, l'impasse économique et sociale dans laquelle nous nous trouvons après la crise de 2024. Donc, c'est ce moment-là qu'il faut apprécier et sur lequel nous voulons surtout échanger parce que ils traduisent surtout le passage d'un débat où la confrontation entre le oui et non a été le moteur de pratiquement 30 à 40 ans de vie politique en Nouvelle-Calédonie à un autre moment qui est celui de la nécessaire construction de quelque chose de commun pour la suite. Donc ça, je voulais le dire. La responsabilité des événements, tout le monde le sait. Moi, pour ce qui me concerne, j'étais au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pendant cette période. Connaissant le mouvement indépendantiste, j'ai envie de dire que la stratégie qui avait été arrêtée par le Front de libération nationale kanak et socialiste n'a pas été au plus près des conséquences que cela pouvait entraîner de telle démarche ou de telle autre démarche. Et la conséquence en était.
Ils se sont laissés déborder, selon vous ?
Bien entendu. Là, il n'y a pas de question. Tout le monde s'est laissé déborder et personne ne s'y attendait à ce qui s'est passé.
Alors, pour revenir à ces élections provinciales du 28 juin, vous y allez seul. On le disait, est-ce que vous ne prenez pas de risques ? On rappelle qu'en 2019, il y avait une liste unitaire FLNKS. Elle avait obtenu 11 000 voix et 7 sièges en province sud. La barre aujourd'hui est plus élevée, notamment en raison de l'inscription des natifs. Elle est à peu près à 6 350 voix. Est-ce que tout seul, c'est possible de la franchir ? Est-ce que ce n'est pas compliqué ?
Le risque est réel. Et nous l'avons intégré dans notre vision de ce moment que nous vivons. Nous avons quand même décidé, compte tenu de difficultés que rencontre le pays aujourd'hui, d'essayer d'apporter notre contribution à la clarification des débats sur l'avenir. Vous le savez, nous n'étions pas preneurs des élections provinciales, c'était parce que nous voulions à tout prix trouver un accord pour qu'on puisse se présenter ensuite aux élections qui étaient prévues, qui pouvaient être prévues en mois de novembre, dans des conditions où l'horizon était à peu près éclairé. Ce n'est pas le cas, donc le risque est réel. Et nous avons quand même l'intention de faire le travail, parce que nous sommes porteurs, dans notre point de vue, d'une ligne qui a sa raison d'être aujourd'hui dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie et surtout sur cette partie qui porte la question de l'indépendance. Et l'autre raison qui nous permet de penser que nous pouvons pencher la barre, c'est que la mouvance pour l'indépendance représente en gros 23-25 000 voix dans la province sud, lorsqu'on se réfère au référendum de 2018 et 2019, lorsqu'on se réfère aux législatives, et vous l'avez dit, 11 000 voix. Ce n'est que la moitié de ce que représente cette mouvance. Et donc,
il y a beaucoup d'abstention, à votre avis,
Énormément d'abstention. Et parce que ce sont des scrutins de liste, les gens n'arrivent pas à se retrouver dans les scrutins de liste. Par contre, voter pour le pays lors d'un référendum, c'est vrai que ça emporte l'enthousiasme général. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens puissent faire un choix et nous permettre de pouvoir continuer à représenter cette ligne-là dans le cadre des futures institutions.
Alors, vous avez commencé à lancer votre campagne, à présenter votre liste avec quelques thèmes. Vous dites notamment que la province sud doit être au service du pays. Et vous dites aussi que la province sud, c'est la Nouvelle-Calédonie en miniature. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Bien sûr, toute la population de la Nouvelle-Calédonie est concentrée en province sud. Toute l'histoire de la Nouvelle-Calédonie est concentrée en province sud. Tous les enjeux de la Nouvelle-Calédonie sont concentrés en province sud. Et l'économie de la Nouvelle-Calédonie est concentrée en province sud. Donc il y a une responsabilité qui relève de la province sud. Nous avons vécu pendant les 30 dernières années autour de la problématique du rééquilibrage. Et c'est vrai qu'effectivement, chaque province se devait de travailler de telle manière qu'on puisse rattraper les déséquilibres qui sont liés à l'histoire coloniale de la Nouvelle-Calédonie. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il faut franchir une autre étape. Et la mission nouvelle Bien sûr, sans effacer celle du réclimage, la mission nouvelle qui incombe aux provinces de la Nouvelle-Calédonie, c'est de travailler beaucoup plus en complémentarité au service de la Nouvelle-Calédonie et la province du Sud encore plus que les autres.
Mais il faut sauvegarder les provinces. Et il faut leur donner un nouveau rôle ou...
Il faut leur donner une impulsion supplémentaire. Dans les discussions que nous avons faites dans le cadre de l'accord de Bougival et Élisée Oudinot, la discussion sur l'avenir des provinces devait être posée dans le cadre du principe de l'auto-organisation. Ce n'est pas le cas. Donc ce que nous disons aujourd'hui, c'est que ce débat-là reste ouvert pour la procédure. Donc il y a beaucoup de gens de chez nous qui demandent à ce que ce soit les provinces soient dissoutes. Nous, on pense très sincèrement qu'il y a un niveau intermédiaire entre la Nouvelle-Calédonie et le commune qui est nécessaire pour apporter la cohérence et la cohésion dans une société qui est une société issue de clivage traditionnel, pour une raison très simple en plus, c'est que nous sommes arrivés aujourd'hui dans une situation où il faut passer de la vie où chacun était dans son couloir, couloir pour l'indépendance, couloir kanak, couloir des autres communautés, couloir des agriculteurs, couloir de ceux qui relèvent de l'économie vivrière. Nous sommes passés de cette situation-là à une nouvelle situation où en fait tout s'enchevêtre. Et donc forcément, il y a un problème de cohérence et de cohésion en général, et le niveau intermédiaire que constitue la province peut présenter un intérêt.
Ce que proposait l'accord de Bougival concernant les provinces, justement, cette auto-organisation, ça vous convenait? Ça vous paraît que c'est la base sur laquelle il faut travailler pour les prochaines années?
Nous nous sommes engagés, et on a surtout parlé pour ce qui nous concerne, d'un réajustement du système institutionnel pour voir comment les institutions de la Nouvelle-Calédonie ont assumé la période et qu'est-ce qu'on en tire comme bilan. Parce que forcément, ça s'use. Et donc, c'est ce qu'on a pu, on a pu constater. Donc, ce que nous redisons avec force, c'est que les provinces ont leur intérêt. Sinon, on reviendrait à la situation d'avant 86. Et on ne pense pas que c'est dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie de se passer de ce niveau-là. Mais il faut le réajuster.
Alors, l'une des originalités de votre discours, beaucoup de listes ou de candidats depuis le début de cette campagne mettent en avant la nécessité, la priorité de la relance économique plutôt que l'institutionnelle. Vous vous dites que très peu de listes parlent de l'avenir finalement, et vous voulez en parler de l'avenir institutionnel.
On veut surtout compléter le débat sur la question institutionnelle, parce que l'avenir, il faut bien ouvrir les horizons pour que ceux qui veulent investir, ceux qui veulent s'engager, ceux qui veulent vivre avec nous en Nouvelle-Calédonie puissent le faire sur des bases qui ont été largement débattues, et c'est ce que nous allons continuer à faire.
Mais vous comprenez que certains disent non, l'institutionnel, il faut le laisser de côté parce que ça nous divise, on ne trouve pas de solution, etc. Il faut tout mettre sur la relance économique, vous comprenez ce...
Je le comprends, et pour avoir présidé le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pendant 3 ans et demi, et avoir fait la promotion de ce qu'on a appelé le PS2R, c'est une critique je réfute, puisque nous avons voulu faire, avec le PS2R, un plan de sortie de crise. J'ai constaté que ceux aujourd'hui, qui plaident en faveur d'une priorisation sur la question économique et sociale sont pour beaucoup ceux qui n'avait pas encouragé le PS2R à l'époque.
Ni le pacte nickel, d'ailleurs, en général.
Et ni le pacte nickel, qui était un pacte de transition, puisqu'il avait une durée de vie jusqu'en 2028, mais la Nouvelle-Calédonie est ainsi, on veut toujours tout de suite. Alors qu'elle doit, je crois qu'il y a une méthode, même une approche qui est culturellement quelque chose qui sied à la Nouvelle-Calédonie, c'est celle de la progressivité, de la transition, parce que dans un petit pays et avec un petit peuple comme nous le sommes, les situations de rupture, c'est toujours difficile à les traiter.
Alors vous voulez parler de l'avenir. Le Premier ministre, lui, souhaite une reprise des discussions dès le mois de juillet. Vous êtes d'accord, faut faire ça aussi vite et vous participerez bien sûr, enfin l'UNI en tout cas participera à ces discussions.
C'est même pas une question parce que tout le monde s'y est engagé. Donc on verra bien qui sera autour de la table et dans quelles conditions les choses pourraient se présenter. Ce que nous redisons, c'est que on appelle la population de Nouvelle-Calédonie aujourd'hui à élire pour des raisons de respiration nécessaires démocratiques. Sauf que on appelle les gens à venir voter pour des nouveaux mandats. Dans un contexte où on ne sait pas trop où on va. Et on peut toujours plaider en faveur de poursuite de l'accord de Nouméa, sauf que l'accord de Nouméa est arrivé pour beaucoup, dans une situation où il n'a plus les éléments de dynamisme nécessaires à ce qu'on puisse impulser un nouveau processus. Donc, il faut à tout prix qu'on puisse sortir quelque chose d'ici le mois de septembre. C'est le calendrier. C'est la fenêtre de tir qui a été proposée par le gouvernement.
C'est court quand on voit depuis le temps qu'on le cherche.
C'est court lorsque on n'est pas raisonnable. Voilà. Mais les conditions, et en tout cas les éléments de discussion, sont largement posés. Je l'ai dit dans une formule lapidaire, de débat à Kanaky, il y a de la marge. Et je suis même certain que la marge qu'il faut traiter, elle est très restreinte.
Mais alors qu'est-ce qui fait, alors c'est, si on est raisonnable, vous dites, parce que ça fait quand même des mois et des mois que vous discutez, ça a été raté à Deva, ça a failli réussir à Bougival, mais finalement l'accord est suspendu. Qu'est-ce qui peut faire que ça marchera et qu'un accord global est possible aujourd'hui ?
C'est la volonté et la confiance. Donc tout le monde a considéré qu'il fallait faire ces élections pour relégitimer ceux qui vont en discuter, même si la désignation des délégations jusque-là n'a jamais été référencée au mandat. Le FNKS n'a jamais nommé les élus pour ce qu'ils sont. Il a nommé ceux qu'il a considérés comme comme habilités à discuter. Donc, on verra bien à la sortie. Mais je crois que ce qui est important de dire à la population, c'est que si nous n'arrivons pas à trouver un accord entre Ndeva et l'accord de Kanaky en septembre, nous allons rentrer dans une autre étape, c'est celle des présidentielles, et on ne pourra espérer avoir des discussions nouvelles sous l'égide du nouveau président de la République qu'à l'horizon de 2028. Et là, c'est le statu quo.
Entre-temps, c'est l'accord de Nouméa qui se poursuivrait sans évolution possible.
C'est surtout le statu quo.
Alors que vous avez un projet, vous aussi, c'est un projet de souveraineté en partenariat avec la France. C'est un projet d'indépendance, mais ce n'est pas l'accord de Kanaky. Ça se situe un peu en...
Oui, on ne veut pas essayer de le référencer à des accords, parce qu'on pourrait parler longuement de ce qu'il y a dans l'accord de Kanaky, on pourrait aussi parler longuement de ce qu'il y a dans l'accord de Deva. J'ai envie de dire que Bougival et Lizzie Odino faisaient la synthèse un petit peu de toutes ces aspirations. Mais ce que nous disons nous aujourd'hui, c'est que le projet d'accession à une pleine souveraineté en partenariat avec la France, c'est celui qui pourrait permettre de prendre en compte l'histoire du pays, prendre en compte les besoins que nous pourrions avoir d'un accompagnement avec la France de cette nouvelle phase qui s'ouvrirait pour notre pays. Mais surtout, le partenariat avec la France, c'est prendre en compte le traitement du lien ombilical qui existe entre la France et la Nouvelle-Calédonie, qui a amené beaucoup de populations ici, qui constitue aujourd'hui le peuple de Kanaky Nouvelle-Calédonie. Et surtout, c'est un lien ombilical parce que nous ne pouvons pas, nous les Kanaks, avoir revendiqué notre identité pour ce qu'elle est, et puis nier dans la construction d'une nation nouvelle ou d'un nouveau pays le fait que beaucoup de gens ont un lien ombilical avec la France. Et le partenariat, c'est un projet de société en soi.
Mais quand vous dites accession à pleine souveraineté, ça veut dire que vous faites l'impasse sur les trois référendums dans lesquels les Calédoniens ont dit non à l'indépendance, non à la pleine souveraineté.
Non, non. L'accord de Nouméa avait plaidé en faveur, avait indiqué très clairement que la France reconnaissait la vocation à l'indépendance. Il y avait une condition par laquelle il fallait passer.
À la pleine émancipation.
Oui.
Les mots ont leur sens.
Oui, bien sûr. Bon, on peut jouer avec les mots comme on veut, mais c'est ça que cela veut dire. Et si vous voulez, la condition par laquelle il fallait passer, c'est le référendum. Donc on n'y est pas parvenu. ce que nous disons depuis, c'est que pendant 4 ans, nous avons tergiversé pour chercher quelque chose. Et l'accord, ce qui est intéressant dans l'accord qui a été signé mais qui n'a pas été validé jusqu'au bout, c'est que le principe, je dis bien le principe du transfert des compétences lingaliennes a été approuvé par le gouvernement central et toutes les formations calédoniennes.
Soumis à un certain nombre de verrous, quoi.
C'est les modalités.
Que certains jugent infranchissables.
Je parle du principe. Ensuite, les discussions sur lesquelles on a achoppé, c'est les modalités. Hein, ce n'est pas du même niveau. Hein. Et donc, c'est ce qu'on dit. Donc, nous sommes engagés dans une nouvelle étape de l'insertion. C'est pour ça que je parle d'un basculement, générationnel, basculement par rapport à tout ce que nous avons pu réaliser et qui ont trouvé leurs limites. Tous les secteurs de la Nouvelle-Calédonie sont en crise aujourd'hui. Basculement aussi, c'est le plan politique. Donc, et notamment d'une phase d'opposition, de combat entre l'indépendance et le maintien au sein de la République. Et le oui et le non ont acté une chose, c'est que ce débat-là, il faut le dépasser. Hein? C'est dans ce sens qu'on dit qu'on prend en compte les résultats des 3 référendums comme l'indicateur d'une évolution nécessaire du débat sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie pour rentrer dans une nouvelle étape qui est la phase de préparation de la suite et de préparation avec tout le monde, mais il faut qu'on arrive à sortir les gens de ce débat binaire. Ce qu'on constate lors de ces élections, c'est que beaucoup de formations politiques, tout d'un coup, sont d'accord. Mais j'ai envie de dire, ça ne nous étonne pas. Puisque dans l'accord qui a été signé, le principe du transfert a été acté.
Vous dites même, et c'est un peu provocateur, tous ceux qui se revendiquent du centre nous ont rejoints.
Oui, mais ce n'est pas provocateur. On dit de façon factuelle les choses telles que ça se présente aujourd'hui. J'ai noté, par exemple, que pendant très longtemps, Calédonie Ensemble ne s'est pas prononcé ouvertement. Et tout d'un coup, donc, ils sont dans une liste qui est portée par un de nos illustres anciens Kanak. Ils sont dans une liste qui porte très ouvertement le partenariat. Et je constate que les autres formations aussi.
Avec Wallace Cotra.
Avec Wallace Cotra, oui. Et pour les autres formations aussi. Donc, nous disons chiche. Eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir rentrer dans une discussion constructive sur ce processus qui pourrait nous amener à souveraineté en partenariat. Et j'ai envie de dire, c'est même le débat qu'il faut ouvrir à partir du mois de juillet jusqu'au mois de septembre.
Mais justement, ces fameux partis du centre qui eux disent on n'est ni indépendantiste ni non-indépendantiste. Hein, c'est pour ça qu'on ne sait pas forcément où les situer. Vous pourriez faire une majorité avec eux demain au Congrès de la Nouvelle-Calédonie ?
Ben, on a travaillé sur les dossiers et souvent on s'est mis d'accord sur un certain nombre d'orientations. J'ai dirigé un gouvernement collégial pendant 3 ans et demi, qui a travaillé sur beaucoup de sujets. Et il ne m'est pas apparu, notamment dans les 2 ans qui ont suivi l'année de prise en charge du gouvernement, je n'ai pas senti qu'il y avait matière à ce qu'on ne puisse pas s'entendre sur quelque chose pour l'avenir.
Mais il y avait des difficultés à trouver des majorités au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. On a bien vu que les textes, on n'arrivait pas à faire passer les textes.
Parce que quand on va au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, on a tendance à rentrer dans un jeu politicien.
Et vous croyez qu'on va y échapper à partir de ces provinciales 2026?
Il faut en sortir. Parce que, et c'est le paradoxe que nous allons vivre, c'est que en même temps qu'il faut stabiliser le pays, en même temps qu'il faut l'engager sur une voie beaucoup plus sereine, nous allons entamer un mandat de transition, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous dira.
En attendant, c'est un mandat de transition, vous l'avez dit aussi, mais quels sont les solutions, les pistes, est-ce qu'il y a un moyen de sortir de ces crises multiples auxquelles est soumise la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous avez des propositions concrètes à faire que vous allez mettre sur la table pendant cette campagne?
Oui, on va mettre des propositions à terme, mais notre grosse préoccupation, c'est la gouvernance de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour ça qu'on indique qu'on veut que la province sud, compte tenu de ce qu'elle représente, hein, et joue un rôle moteur dans cette recherche d'une plus grande cohérence, d'une plus grande cohésion pour le pays. Et notamment en province sud, on a envie de réorienter un petit peu les grandes priorités qui ont prévalu jusqu'à aujourd'hui. Et notamment, il y a quelque chose qui nous importe beaucoup, c'est de développer. Une forme un travail en partenariat avec les collectivités qui sont plus en dessous, hein, notamment les communes, hein, mais aussi avec les autorités coutumières. Je n'ai pas souvenir que les provinces aient beaucoup travaillé avec les conseils d'air, alors que c'est le même niveau, normalement, de responsabilisation qui était prévu dans le système institutionnel. Puisque le niveau des communes est celui qui regarde directement les autorités coutumières locales, le conseil des tribus, etc. Donc, on veut engager la province dans une nouvelle démarche. Hein. On pense qu'on est plus en mesure de le faire, hein, que les responsables actuels qui sont en province sud, pour des raisons évidentes, pour des raisons de culture, pour des raisons politiques. Donc c'est notre grande priorité. Si la province sud joue la carte de la complémentarité dans le portage de la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble, on va s'en sortir.
Votre liste, comment l'avez-vous constituée ? Vous êtes la tête de liste, mais il y a un renouvellement quand même, il y a un changement de génération ou non ? Parce que c'est ce qu'on voit un petit peu sur un certain nombre de listes aujourd'hui.
C'est une liste qui est mature. Ouais, c'est plus sous ce terme-là que je qualifierais les caractéristiques de notre liste. Les matures, vous avez en tête trois personnes qui sont déjà engagées. Moi-même, Inès Kouaté, qui est une jeune élue, dont c'était le premier mandat, et Claude Cambé, hein, qui est au gouvernement. Nous avons ensuite Virginie Payard, qui est adjointe du maire de Mouraille. Nous avons ensuite Franck Bonnard, qui est un agriculteur, qui est connu. Hein, donc, et vous avez ensuite d'autres jeunes. Donc, par exemple, les 10 premiers ont une moyenne d'âge entre 50 et 52, 2 ans. Et c'est pour ça que je qualifie de liste mature. Hein, donc, parce que, je dis, notre philosophie à nous, en tout cas, et notre engagement jusqu'à aujourd'hui, c'est un engagement pour faire évoluer la Nouvelle-Calédonie dans le bon sens. Et on n'aime pas les situations de rupture. Hein, et en cela, on reste conforme à quelque chose, à un principe qui est propre à la société kanak, c'est que le passage de témoins doit se faire sans rupture.
Ce qui ne semble pas avoir été le cas pour toutes les listes. On pense notamment à celle du FLNKS qui... Ben, c'est plus une liste de rupture, elle, non ?
Oui, mais il y a une... On constate qu'il y a une concurrence aujourd'hui à celui qui aurait le plus beau label de jouvence. Hein? Donc, on n'est pas sûr que dans ce moment précis où nous vivons un profond questionnement, hein, sur existentiel pour chacune de nos communautés, existentiel pour ce qui concerne le lien, hein, de la Nouvelle-Calédonie avec la France, on n'a pas l'impression que... Enfin, on a la conviction qu'il faut faire attention, il faut des gens pour pouvoir tenir.
Hein, donc des gens qui ont un peu d'expérience.
Qui ont un petit peu d'expérience, oui.
Donc votre liste s'appelle Unis pour le pays en province sud. Forcément, Loumapou, on va vous demander si vous avez des informations sur les listes que l'Unis présente dans le nord et dans les îles. C'est bouclé là aussi, c'est prêt.
Il y aura deux listes, une liste en province des îles et une liste en province nord. Ils sont en train de les boucler en ce moment.
Et vous pouvez nous confirmer que Paul Néoutine va y retourner et va conduire la liste Unis dans le nord.
On va attendre pour voir qu'est-ce qui en sortira de la liste du nord.
Vous le savez, mais vous ne voulez pas le dire, c'est ça ?
Oh, je sais qui c'est qui pourrait conduire, mais la décision n'est pas définitivement prise.
On va attendre le dépôt des listes. Alors, voilà. Votre campagne va se dérouler comment ? Vous avez commencé ? Vous êtes sur le terrain là déjà ?
On a commencé, on est déjà beaucoup dans les quartiers. On a déjà fait une pré-campagne dans les communes de l'intérieur. On est dans les quartiers parce que nous avons eu un moment de rupture du lien que nous avions avec les quartiers, avec les événements, parce que nous étions très peu présents. Dans la partie difficile, hein, des événements qui ont commencé le 13 mai. Je l'ai dit, on était à l'animation d'un bureau politique, mais c'est sous l'impulsion des autres camarades que les choses se sont passées sur le terrain. Donc on a perdu un petit peu pied, et donc on est en train de reprendre, parce qu'on pense qu'il faut une parole qui est claire pour qu'on puisse envisager le traitement des défis qui sont posés à la société calédonienne aujourd'hui dans les meilleures conditions. Oui.
Louis Mapouf, ancien président du gouvernement, tête de liste unie pour le pays en province sud. Merci d'accepter votre invitation.
Merci Elisabeth Noir.